Effet que peuvent produire 7 jurons en plein air.
Des Dumlodamus, s'écria Maître Géant en sortant de son trou. Voilà les deux chats-huants partis.
Hoc, hoc, ax, pax, max, les puces, les chiens enragés, le diable. J'en ai assez de leur conversation.
La tête me bourdonne comme un clocher.
Du fromage moisi par-dessus le marché.
Suze, descendant, prenant l'escarcelle du grand frère et convertissant toutes ses monnaies en bouteilles.
Il jeta un coup d'œil de tendresse et d'admiration dans l'intérieur de la précieuse escarcelle, rajusta sa toilette, frotta ses bottines, épousseta ses pauvres manches mahoîtres, toutes grises de cendre, siffla un air, pirouetta une gambade, examina s'il ne restait pas quelque chose à prendre dans la cellule, grappilla çà et là sur le fourneau quelques amulettes de verroterie bonnes à donner en guise de bijoux à Isabeau la Thierry. Enfin, ouvrit la porte que son frère avait laissée ouverte par une dernière indulgence et qu'il laissa ouverte à son tour par une dernière malice et descendit l'escalier circulaire en sautillant comme un oiseau. Au milieu des ténèbres de la vis, il coudoya quelque chose qui se rangea en grognant. Il présuma que c'était Quasimodo et cela lui parut si drôle qu'il descendit le reste de l'escalier en se tenant les côtes de rire. En débouchant sur la place, il riait encore. Il frappa du pied quand il se retrouva à terre.
« Oh » dit-il, « bon et honorable pavé de Paris, maudit escalier à essouffler les anges de l'échelle Jacob. À quoi pensais-je de m'aller fourrer dans cette vrille de pierre qui perce le ciel ? Le tout pour manger du fromage barbu et pour voir les clochers de Paris par une lucarne. »
Il fit quelques pas et aperçut les deux chats-huants, c'est-à-dire Don Claude et Maître Jacques Charmolue, en contemplation devant une sculpture du portail. Il s'approcha d'eux sur la pointe des pieds et entendit l'archidiacre qui disait tout bas à Charmolue « C'est Guillaume de Paris qui a fait graver un job sur cette pierre couleur de la lapis-lazuli, dorée par les bords. Job figure la pierre philosophale qui doit être éprouvée et martyrisée aussi pour devenir parfaite, comme dirait mon Lulle. Sub conservation formo specifico. « Salva anima. »«
Cela m'est bien égal, dit Géant, c'est moi qui ai la bourse. »
En ce moment, il entendit une voix forte et sonore articuler derrière lui une série formidable de jurons.
« Sang Dieu, ventre Dieu, baie Dieu, corps de Dieu, nombril de Belzébuth, nom d'un pape cornet-tonnerre !»«
Sur mon âme, s'écria Géant, ce n'est peut-être que mon ami le capitaine Phébus. »
Ce nom de Phébus arriva aux oreilles de l'archidiacre au moment où il expliquait au procureur du roi le dragon qui cache sa queue dans un bain d'où sort de la fumée et une tête de roi. Don Claude tressaillit, s'interrompit à la grande stupeur de Charmolue, se retourna et vit son frère Géant qui abordait un grand officier à la porte du logis gondolorier. C'était en effet monsieur le capitaine Phébus de Château-Perse. Il était adossé à l'angle de la maison de sa fiancée et il jurait comme un païen.
« Ma foi, capitaine Phébus, dit Géant en lui prenant la main, vous sacrez avec une verve admirable. »«
Corne et tonnerre, répondit le capitaine. »«
Corne et tonnerre vous-même, répliqua l'écolier. Or ça, gentil capitaine, d'où vous vient ce débordement de belles paroles ?»«
Pardon, bon camarade Géant, s'écria Phébus en lui secouant la main.
Cheval lancé ne s'arrête pas à court. »
Or, je jurai au grand galop. Je viens de chez ces bégueules, et quand j'en sors, j'ai toujours la gorge pleine de jurements. Il faut que je les crache ou j'étoufferai, ventre et tonnerre.
Voulez-vous venir boire ? Demanda l'écolier.
Cette proposition calma le capitaine.
Je veux bien, mais je n'ai pas d'argent.
J'en ai, moi.
Bah, voyons. Géant étala l'escarcelle aux yeux du capitaine avec majesté et simplicité. Cependant, l'archidiacre, qui avait laissé là Charmolue ébahi, était venu jusqu'à eux et s'était arrêté à quelques pas, les observant tous deux, sans qu'ils prissent garde à lui, tant la contemplation de l'escarcelle les absorbait.
Phébus s'écria, « Une bourse dans votre porche, Géant ? C'est la lune dans un seau d'eau ?
On l'y voit, mais elle n'y est pas.
Il n'y en a que l'ombre.
Par Dieu, gageons que ce sont des cailloux. »
Géant répondit froidement,
« Voilà les cailloux dont je caillouste mon gousset. »
Et sans ajouter une parole,
il vida l'escarcelle sur une borne voisine de l'air d'un Romain sauvant la patrie.
« Vrai Dieu !» grommela Phébus. « Des targes, des grands blancs, des petits blancs, des mailles.
D'un tournoi les deux, des derniers parésis, de vrais liards à l'aigle. C'est éblouissant !»
Géant demeurait digne et impassible. Quelques liards avaient roulé dans la boue. Le capitaine, dans son enthousiasme, se baissa pour les ramasser. Géant le retint.
« Fi, capitaine Phébus de Château-Perse !»
Phébus compta la monnaie et se tournant avec solennité vers Géant, « Savez-vous, Géant, qu'il y a 23 sous parisis ?
Qui avez-vous donc dévalisé cette nuit, rue Coupe-Gueule ? »
Géant rejeta en arrière sa tête blonde et bouclée et dit en fermant à demi des yeux dédaigneux
« On a un frère archidiacre et imbécile !»«
Corne de Dieu !» s'écria Phébus, le digne homme.
« Allons boire, » dit Géant.
« Où irons-nous ? » dit Phébus. « À la pomme d'Ève ? » ?»«
Non, capitaine, allons à la vieille science. » Une vieille qui scie une anse, c'est un rebut. J'aime cela.
Foin des rebuts, Géant. Le vin est meilleur à la pomme d'Ève.
Et puis, à côté de la porte, il y a une vigne au soleil qui m'est gaie quand je bois.
Eh bien, va pour Ève et sa pomme, dit l'écolier. Et prenant le bras de Phébus,
à propos, mon cher capitaine, vous avez dit tout à l'heure, la rue Coupe-Gueule.
C'est fort mal parlé. On n'est plus si barbare à présent. On dit la rue Coupe-Gorge.
Les deux amis se mirent en route vers la pomme d'Ève. Il est inutile de dire qu'ils avaient d'abord ramassé l'argent et que l'archidiacre les suivait.
L'archidiacre les suivait, sombre et hagard.
Était-ce là le Phébus dont le nom maudit depuis son entrevue avec Gringoire se mêlait à toutes ses pensées ?
Il ne le savait pas, enfin. C'était un Phébus, et ce nom magique suffisait pour que l'archidiacre suivît à pas de loup les deux insouciants compagnons, écoutant leurs paroles et observant le moindre geste avec une anxiété attentive. Du reste, rien de plus facile que d'entendre tout ce qu'ils disaient, tant ils hurlaient haut, fort peu gênés de mettre les passants de moitié dans leur confidence. Ils parlaient duel, fille, cruche, folie. Au détour d'une rue, le bruit d'un tambour de basque leur vint d'un carrefour voisin. Don Claude entendit l'officier qui disait à l'écolier
« Tonnerre ! Doublons le pas !»«
Pourquoi, Phébus ? J'ai peur que la bohémienne ne me voie. »«
Quelle bohémienne ?
La petite qui a une chèvre. »«
La Smeralda ?
Justement, Géant. J'oublie toujours son diable de nom. Dépêchons-nous, elle me reconnaîtrait et je ne veux pas que cette fille m'accoste dans la rue. »
« Est-ce que vous la connaissez, Phébus ?»
Ici, l'archidiacre vit Phébus ricaner, se penchant à l'oreille de Géant et lui dire quelques mots tout bas. Puis Phébus éclata de rire et secoua la tête d'un air triomphant.
« En vérité, dit Géant ?»«
Sur mon âme, dit Phébus.
Ce soir ?
Ce soir.
Êtes-vous sûr qu'elle viendra ?
Mais êtes-vous fou, Géant ?
Est-ce qu'on doute de ces choses-là ?
« Capitaine Phébus, vous êtes un heureux gendarme !»
L'archidiacre entendit toute cette conversation. Ses dents claquèrent. Un frisson visible aux yeux parcourut tout son corps. Il s'arrêta un moment, s'appuya à une borne comme un homme ivre, puis il reprit la piste des deux joyeux drôles. Au moment où il les rejoignit, ils avaient changé de conversation. Il les entendait chanter à tue-tête les vieux refrains.
Les enfants des petits carreaux se font pendre comme des veaux.